Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. On va parler de l'astre le plus proche de la Terre, visité par les astronomes il y a presque une quarantaine d'années aujourd'hui. On va parler évidemment de la Lune en compagnie de notre invité Yves Langevin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Yves Langevin, directeur de recherche à l'IAS, l'Institut d'astrophysique spatiale. Est-ce que les scientifiques ont encore des choses à apprendre, des choses à découvrir sur le compagnon, le satellite naturel de la Terre?
Oui. On a fait sur la Lune des très grandes découvertes, effectivement, il y a maintenant 40 ans, au moment des missions Apollo. Et d'ailleurs, ces missions et les échantillons qu'on en a rapportés ont fait beaucoup progresser, non seulement la connaissance de la Lune, mais même la connaissance de l'origine des corps constitutifs du système solaire, en particulier de la Terre. Il y a ensuite une deuxième étape, je dirais, c'est le début des années 80, où il y a eu un nouveau progrès issu de divers horizons, et en particulier les progrès des gros calculs de dynamique céleste qui ont montré que lorsqu'on formait des corps dans un système en formation, ils avaient tendance à entrer en collision de façon très fréquente. Donc, c'est à ce moment-là, vers le début des années 80, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des contradictions terribles, finalement, sur ce qu'on avait appris d'Apollo. Vous aviez un objet qui est la Lune, dont la densité est beaucoup plus faible que celle de la Terre, puisqu'elle fait 3,3 environ, alors que la Terre fait 5,5, donc très peu de fer. Néanmoins, des roches à la surface qui, finalement, ne sont pas très différentes de celles qu'on trouve sur la surface de la Terre. Il y a des différences, il y a des éléments qui sont beaucoup moins abondants, en particulier les éléments dits volatiles, mais quand même, vous prenez un caillou lunaire, au premier ordre, ça ressemble. Donc comment expliquer, finalement, que ces deux objets qui sont si proches soient à la fois aussi similaires et aussi différents? Alors c'est là que les gens ont mis en place ce qu'on appelle la théorie de l'impact géant, qui reste encore tout à fait d'actualité et qui consiste à dire, pour former la Lune, on commence par former une Terre qui est à peu près la taille qu'elle a aujourd'hui, et on envoie dessus, lors d'un impact à une vitesse phénoménale, de l'ordre de 20 km par seconde, un objet à peu près de la taille de Mars. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Les deux objets entrent en collision, les parties extérieures des deux objets, donc les roches, les manteaux là, ou la croûte, partent en orbite pendant que les deux noyaux fusionnent. Donc ça donne finalement la solution au problème, puisque finalement le fer des deux objets s'est retrouvé dans le noyau de la Terre, alors que des parties extérieures expulsées par la collision se sont condensées en un objet plus petit qui s'appelle la Lune et qui s'est retrouvé en orbite autour de notre planète. Donc je dirais, ça c'est la grande évolution du début des années 80. Toutes les contradictions entre en particulier les chimistes et les physiciens qui étaient issus des résultats d'Apollo ont fini par être non pas complètement levés, mais disons que la situation s'est beaucoup améliorée. Alors pourquoi veut-on aller plus loin? Il faut savoir qu'effectivement, la Lune a finalement à la fois un énorme avantage par rapport à tous les autres objets du système solaire, qui est qu'on a des échantillons de 9 sites. C'est énorme, c'est le seul objet où on ait des échantillons non seulement en quantité relativement importante, parce qu'il y a plus de 400 kilos, mais également des échantillons qui ont été prélevés à des endroits bien connus et qui ont été caractérisés dans l'orientation, la profondeur des carottes. Donc on a quelque chose de très riche en off-site, ce qui est beaucoup. Néanmoins, cette connaissance est quelque part incomplète, puisque pour aller vers l'objectif politique qui était de mettre l'homme sur la Lune, les Russes et les Américains ont brûlé les étapes et ont finalement court-circuité tout ce qui pourrait être une démarche normale d'exploration d'un objet du système solaire, comme ce qu'on est en train de faire, par exemple, autour de Mars. Alors, en particulier, on a attendu très longtemps, en fait, la fin des années 90, pour remettre en orbite autour de la Lune des satellites qui en font la carte globale avec tous les outils modernes de caractérisation des surfaces. Il faut savoir qu'avant, par exemple, Lunar Prospector, qui a volé en 2000-2001, nous n'avions pas de cartographie globale des éléments constitutifs, en particulier des éléments radioactifs, puisqu'il n'y avait pas eu de spectro gamma, et il n'y a toujours pas eu de spectro dans le domaine des rayons X. Il y a également un manque pour tout ce qui est minéralogie, parce qu'on n'a pas encore en orbite de spectromètre infrarouge qui vous dit si c'est de l'olivine, enfin quel type de silicate constitue la surface. Donc on voit bien qu'il y a ce double aspect, un corps qui est d'une part de loin le mieux connu, puisque c'est le seul où on ait vraiment une chronologie, pour avoir des dates, il faut des échantillons, pour le moment tout du moins, et d'autre part, un objet où finalement, il y a eu des pans entiers de la caractérisation par des missions spatiales qui a été court-circuité par l'urgence de l'objectif politique de mettre un astronaute à la surface.
Alors aujourd'hui, on peut aussi comparer la Lune par rapport aux autres satellites des autres planètes. On fait de la planétologie comparée. Hein. Est-ce que la Lune est un objet unique ou quelque part, il ressemble aux autres satellites des autres planètes ?
Je dirais qu'il est plutôt terriblement spécifique. Si vous prenez les satellites de taille comparable, il y a, disons, 8 satellites dans le système solaire qui ont des tailles de niveau planétaire, je dirais. Vous avez plusieurs satellites de Jupiter, Ganymède et Callisto, qui sont plus gros que Mercure. Donc ces objets-là, en moyenne, se sont formés par des processus totalement différents. Les satellites de Jupiter se sont formés par l'accrétion d'une nébuleuse qui tournait autour de Jupiter, un peu comme les planètes se sont formées par l'accrétion d'un disque de poussière et de gaz qui tournait autour du Soleil. Donc on a ce qu'on appelle des systèmes réguliers de satellites. Ils se caractérisent par le fait que tous les plans des orbites sont bien identique également d'ailleurs au plan de rotation de la planète, et la Lune, on voit bien que c'est un objet totalement différent. L'inclinaison du plan est plus grande, la taille par rapport à la planète est également très grosse, puisque un facteur 1 est 81, c'est beaucoup plus important, enfin c'est un satellite relativement beaucoup plus gros que ce qu'on a avec Jupiter et Ganymède. Le seul exemple qu'on pourrait reprendre, c'est peut-être Pluton et Charon, qui eux ont un rapport de masse à peu près 10, mais c'est une situation complètement différente. Je dirais Pluton et Charon, d'abord, Pluton n'est pas une planète, ça maintenant enfin tout le monde est d'accord, mais c'est plutôt, disons, un système double avec deux objets de taille moyenne qu'une planète et un satellite. Ça ressemble quelque part à des astéroïdes doubles comme on en voit maintenant dans la ceinture principale.
Donc la Terre et son satellite, la Lune, sont deux objets liés et l'histoire de la Terre aurait été bien différente si la Lune n'avait pas été là.
C'est clair. Déjà, l'histoire de la Terre et de la Lune, comme je viens de le discuter, sont complètement et étroitement imbriquées. Le premier grand événement de l'histoire de la Terre, c'est cet impact qui a complètement modifié évidemment tout ce qu'il pouvait y avoir à la surface et qui a conduit à la formation de la Lune. Donc quelque part, on a en fait un système Terre-Lune dont on a essayé d'élucider le processus de formation globale, et ce qui concerne la Lune nous concerne évidemment aussi.
Est-ce qu'on peut trouver sur la Lune, justement, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, parce que il n'y a pas eu de tectonique non plus, pas d'altération, des éléments qui permettent de comprendre dans le passé l'histoire de ce couple Terre-Lune? Qu'est-ce qui reste à trouver à la surface de la Lune qui parle de la Terre?
Alors, c'est tout à fait évident. Si vous prenez la Lune aujourd'hui, il est clair que vu sa toute petite taille, environ 3300 km de diamètre, c'est un objet qui s'est refroidi très vite. Et au bout d'à peu près un milliard d'années et 500 millions d'années par endroit, la surface s'est complètement stabilisée, alors que sur Terre, très très peu d'endroits ont des âges supérieurs à 3 milliards d'années. Donc la Lune et la Terre sont l'une à côté de l'autre dans le système solaire. Si vous voulez retracer l'histoire de ce qui s'est passé dans l'environnement de la Terre depuis 4 milliards et demi d'années, la Lune va vous donner cet enregistrement sur 4 de ces 4,5 milliards d'années. C'est donc tout à fait précieux. Si vous voulez repérer tout ce qui a pu se passer, et comme vous le dites, il n'y a pas d'atmosphère, donc par exemple tout ce qui est tout petit grain de poussière, les micrométéorites, tout ce qui est particules chargées, les rayons cosmiques, le vent solaire, tout cela s'enregistre finalement à la surface de la Lune, et en fait très accessible. Il faut savoir que depuis qu'on finalise finalement la formation de la croûte lunaire en un certain endroit, donc sur les continents c'est très rapide, sur ce qu'on appelle les mers il y a une deuxième phase qui est qu'un milliard d'années plus tard il y a des grands épanchements de lave qui finalement se refroidissent ensuite, donc on a en fait deux plaques photo qui sont mises en place à deux moments différents, environ 300 millions d'années après la formation de la Lune et environ 1 milliard d'années après la formation de la Lune. Et ces plaques photo vont tout enregistrer puisqu'il n'y a pas d'atmosphère et il n'y a pas d'altération. Par contre, ensuite, il y a quand même quelques impacts de météorites qui tombent, mais ça ne va pas très loin. Tout ce que ça réussit à faire, c'est accumuler une couche de débris qui fait à peu près 5 mètres d'épaisseur, ce qu'on appelle le régolithe. Donc sur la Lune, vous prélevez une carotte de 5 mètres de profondeur et vous avez 4 milliards d'années d'histoire du système solaire. Juste pour donner un ordre de grandeur, vous allez dans l'Antarctique, qui est l'endroit où on arrive à remonter dans le passé pour le climat, vous prenez 4 km de carotte de glace, vous avez péniblement 200 000 ans. Donc vous voyez l'ordre de grandeur. Là, avec 5 mètres, vous faites 4 milliards d'années, où vous pouvez regarder. Alors c'est pas tout à fait aussi simple qu'une carotte de glace, parce que le dépôt des strates n'est pas très régulier, puisque ça peut être bouleversé par un autre impact qui va vous mélanger un peu tout ça. Néanmoins, au premier ordre, c'est une étude d'ailleurs sur laquelle j'ai travaillé au début des années 80, plus c'est profond, plus c'est vieux. Et donc, en descendant le long de la carotte, vous pouvez, par exemple, analyser la composition du vent solaire, regarder s'il y a des micrométéorites qui ont des compositions différentes, donc regarder tout un tas de choses qui nous renseignent sur, finalement, tout ce qui a pu modifier l'environnement de la Terre. Alors, un cas pour lequel il y a eu des événements récents, c'est ce qu'on appelle donc le problème de la glace au pôle de la Lune. Alors, les gens sont un peu revenus, néanmoins, on pense qu'il peut y avoir quelques volatiles piégés. Mais typiquement, si vous ramenez une carotte dans un de ces cratères, toujours à l'ombre du pôle sud ou du pôle nord, il n'est pas exclu qu'on puisse voir s'il y a des horizons plus ou moins profonds où il y ait plus de glace, d'eau, que dans d'autres. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on arrive à faire ce type de carottage? On pourrait repérer si à un moment de l'histoire du système solaire, il y a eu le passage d'une étoile proche ou tout événement de ce style qui a multiplié les impacts de comètes à la surface de notre satellite. Puisque la meilleure manière d'apporter de l'eau à la Lune, qui n'en a pas du tout, c'est justement d'avoir un impact de comètes. Donc on voit tout à fait l'intérêt. C'est quelque part, regarder la surface de la Lune nous permet de concrétiser et de regarder de manière extrêmement scientifique tous ces événements, disons, de style un peu, je dirais, sensationnaliste, du style pluie de comètes ou autres qui ont pu conduire aux extinctions des dinosaures et autres. Là, on a vraiment la possibilité de voir s'il y a eu effectivement des événements de ce style dans le passé.
Donc la Lune à archive. Qu'est-ce qui est Luna Incognita aujourd'hui? Est-ce que ce sont ces zones accidentées que sont les pôles et qui n'ont été finalement survolées qu'assez récemment par des sondes automatiques? Est-ce que c'est la face cachée de la Lune? Qu'est-ce qui est le moins bien connu?
Alors c'est clair, pratiquement en raison de l'objectif majeur qui était d'envoyer des hommes, on voulait les mettre à un endroit où on pouvait causer, et donc toutes les grandes explorations lunaires se sont situées sur la face visible et plutôt à des latitudes relativement faibles. Donc il y a un très gros biais en faveur justement des mers lunaires, puisqu'il n'y a qu'un seul site qui s'en écarte vraiment, c'est Apollo 16. Et par contre, on n'a rien de tout ce qui est à plus de 40 degrés de latitude et on n'a rien de la face cachée en termes d'échantillons. Alors depuis, donc, il y a eu deux ou trois missions orbitales. Il y a eu la première, c'était Clémentine, en 93-94, qui était une toute petite bête. Hein. Il y avait, je crois, 5 kilos d'instruments. Ça a permis néanmoins de faire une cartographie complète à 50 mètres, qui n'existait pas. Il faut savoir qu'au début des années 90, on avait, par beaucoup d'éléments, une meilleure connaissance de Mars que de la Lune. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, bon, depuis, il y a eu Lunar Prospector, qui nous a donné quelques éléments supplémentaires. Smart One, qui a fait quelques jolis résultats en matière d'imagerie, mais aussi de spectro-infrarouge. Mais il faut voir que là le mieux est à venir, puisqu'il y a toute cette flopée de missions orbitales lunaires qui va arriver entre 2005 et 2010, et qui va enfin nous donner cette connaissance complète de la surface de la Lune dans tous les domaines de longueur d'onde qui, dans la logique d'une exploration planétaire, aurait dû venir avant les retours d'échantillons. La logique, oui.
Est-ce que la Lune est toujours active aujourd'hui? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'elle est totalement, définitivement morte ou est-ce qu'elle a encore une activité?
Disons que la plupart des gens vous diraient qu'elle est plutôt complètement morte. Il y a eu des histoires ou des articles sur lesquels on aurait pu voir de temps en temps une petite activité, semble-t-il, un dégagement de gaz dans un coin. C'est pas évident. Disons que le consensus, c'est que si vous regardez la manière dont les éléments radioactifs de longue période qui fournissent le moteur, finalement, de l'évolution interne, ont évolué dans le temps sur la Lune, on est très loin au-delà de la phase où on s'attend à une activité majeure. Alors de là à dire qu'il ne se passe rien nulle part, d'abord je ne suis pas un spécialiste de la question, mais d'autre part, bon, ça serait peut-être exagéré, globalement, ce qu'on voit, c'est que chaque élément de surface de la Lune qu'on a regardé est très 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 vieux.
Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait une carte minéralogique de la Lune? Vous avez donné l'exemple de ces sondes, alors que ce soit Smart One ou l'européenne, ou que ce soit Clémentine, l'américaine. Qu'est-ce que ça nous donne et qu'est-ce que ça donne comme information d'avoir une carte minéralogique de ces satellites?
Alors, la carte minéralogique est importante tout d'abord pour bien caractériser les différentes couches qui constituent la Lune. Quelque part, quand vous regardez une mer, vous regardez des laves qui viennent du manteau. Donc si on veut s'intéresser à ce qu'on appelle la composition globale, puisque quelque part, l'une des contraintes principales pour l'origine du système Terre-Lune, c'est la composition chimique d'ensemble de la Lune, qui n'est pas facile d'accès, puisqu'on ne voit que la surface. Donc pour mieux la contraindre, déjà avoir la croûte avec les continents, mais également le manteau avec les mers, va nous donner une première idée sur le mélange qui s'est fractionné, comme on dit, en une croûte et un manteau. Alors, il y a d'autres questions qui sont importantes de ce point de vue-là, c'est y a-t-il un petit noyau ou pas ? La question reste ouverte. Les Japonais avaient prévu une mission de sismologie en 1995 qui s'appelle Lunara, mais malheureusement, ils ont eu des grosses difficultés de développement, ils viennent de l'abandonner. Donc, il y a, du point de vue, disons, de l'origine du couple Terre-Lune, ce problème de composition globale est essentiel, et pour le comprendre, il faut bien préciser chacune des couches qui constituent le satellite. Alors un autre exemple, vous avez sur la Lune des très grands bassins d'impact. Le plus grand a été découvert très récemment par Clémentine, justement, qui avait un laser altimètre, qui a montré qu'il y avait un grand trou de plus de 10 km de profondeur sur la face cachée très au sud. Ça s'appelle le bassin Aitken, South Polar Basin en anglais, et celui-là, en fait, quand il s'est creusé, quand l'impact qu'il a formé s'est produit, il a extrait de régions très profondes de la Lune des tas de matériaux qui sont retombés sur la surface. Donc quand vous regardez une région de ce style, vous voyez effectivement des minéraux qui sont plus proches de ce qu'on attend loin sur la surface, comme par exemple les pyroxènes et le lévite, et moins d'éléments ou de minéraux un peu comme les granites sur Terre qui sont eux plutôt associés à la croûte, les feldspathes et autres bricoles de ce genre. Donc typiquement, regarder la minéralogie dans les grands bassins et autour des grands bassins, c'est faire une espèce de coupe verticale de la composition minéralogique de la croûte et du manteau supérieur.
Et qu'est-ce qu'on apprend quand on fracasse une sonde à la surface de la Lune, puisqu'il n'y a pas de sismomètre ?
Pas grand-chose. Ça a deux avantages. D'abord, médiatiquement, c'est extrêmement utile. Et ensuite, ça évite de payer les coûts de fonctionnement après l'impact, puisque la sonde n'est plus là. Non, plus sérieusement, la sonde Smart One s'est écrasée pour diverses raisons. La principale est qu'on ne pouvait pas faire autrement. Parce que le carburant étant épuisé, une orbite autour de la Lune n'est pas stable. La Terre est trop près. Donc l'orbite se déforme, et pour la maintenir, le passage le plus proche, donc le périastre, au-delà de la surface, ce qui est souhaitable, il faut en permanence dépenser du carburant. Donc quand vous avez plus de carburant, l'impact est inévitable. Donc ce qui a été fait pour Smart One, c'est finalement d'utiliser cet événement pour l'envoyer à un endroit bien précis. Dire qu'il y a eu des résultats spectaculaires à partir de ça, non. Disons qu'on l'a vu, on a vérifié qu'on savait bien piloter une sonde autour d'une planète. Mais bon, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'extraordinairement intéressant.
Alors, la Lune a-t-elle des ressources insoupçonnées, ou en tout cas des ressources qui mériteraient une exploitation ? On peut lire dans la littérature générale depuis quelque temps les déclarations d'un certain nombre d'anciens astronautes en particulier qui légitiment le retour des Américains sur la Lune en disant que de toute façon, il faudra bien un jour exploiter les ressources lunaires et en particulier le fameux hélium-3 qu'on ne trouverait pas sur la Terre. Alors, réalité ou fantasme ?
Alors, essentiellement fantasme, à mon avis. Bon, c'est le grand dada, comme vous l'avez dit, le grand dada d'Harrison Schmitt, qui se balade partout avec ça. C'est actuellement très utile à George Bush pour expliquer que tout ça peut servir à quelque chose. Il ne faut jamais oublier qu'ils nous ont fait le même coup avec la station spatiale, dont l'objectif principal devait être les nouveaux matériaux, les médicaments du futur. On est aujourd'hui, bon, elle n'est pas encore en place complètement, mais disons que les spécialistes sont très largement revenu des promesses extravagantes qui avaient été faites sur finalement le chiffre d'affaires en explosion de l'espace proche de la Terre en tant que enjeu industriel. Donc la Lune, c'est un peu le même problème. j'ai dit tout à l'heure, la Lune, pour l'essentiel, c'est à 98% ou plus quelque chose qui n'est pas très différent de ce qu'on a dans les couches supérieures de la Terre. Donc tant qu'à faire, quitte à aller chercher des morceaux de des couches supérieures de la Terre, ça coûte un peu moins cher d'aller prendre sur la Terre. Alors ça, disons, à nouveau, c'est un peu réducteur, mais au premier ordre, c'est quand même pas très faux. Vous regardez la composition d'une roche lunaire, vous retrouvez et le fer, et l'aluminium, et le silicium, et le magnésium, moins d'ailleurs de certains éléments intéressants, beaucoup moins d'hydrogène, il y a très très peu d'éléments volatiles, l'hydrogène c'est complètement... a été complètement perdu lors de cette énorme collision, puisque tout ce qui pouvait devenir un gaz est parti dans l'espace. Mmh. Mais donc, pour tout ce qui est, disons, minéraux et métaux, au premier ordre, il n'y a pas de raison particulière d'aller là-bas. Alors, le problème de l'hélium-3, effectivement, est assez pipeau, à mon avis, pour diverses raisons. Alors, le tout premier, c'est qu'on vient de mettre en place un outil pour des sommes qui ne sont pas absolument minables, qui s'appelle ITER. L'objectif étant de démontrer les possibilités à l'horizon 50 ans, disent-ils, de la fusion de thorium-tritium en tant que source d'énergie, et je crois que c'est tout à fait légitime d'aller dans cette direction. Il faut savoir quand même que la fusion hélium-3 de thorium requiert un produit pression-température, qui est le critère le plus important en matière de confinement, qui est 10 fois plus élevé que de thorium-tritium. Donc une fois qu'on aura fait ITER, qu'on sera passé 50 ans plus tard à l'état « peut-on faire fonctionner de thorium-tritium », il s'agira ensuite de passer encore le facteur 10 au-dessus pour essayer de faire fonctionner une centrale avec l'hélium-3. Donc il y a quelques petits détails à régler. Mais ça n'est peut-être pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il y a certes un peu d'hélium-3 sur la Lune, mais en des quantités absolument infimes. C'est le vent solaire qui vient du Soleil qui implante cet hélium-3. Et quand on parle de ressources non renouvelables, là, on atteint des sommets, puisque ce sont 4 milliards d'années d'activité solaire qui ont implanté, ion par ion, ces malheureux atomes d'hélium-3 dispersés sur la couche de poussière qui recouvre la Lune. Il faut savoir qu'effectivement, pour avoir une production substantielle d'énergie, il faudrait dépouiller la Lune de sa couche de poussière sur des centaines de milliers de kilomètres carrés, avec les problèmes à la fois logistiques que ça pose, mais également, je dirais presque, les problèmes éthiques. Est-il bien raisonnable de gratter toute la surface d'une planète qui nous a rien demandé pour aller récupérer quelque chose qui va vous donner l'équivalent de, si tout va bien, une centaine d'années de production d'énergie, à vrai dire, et même du point de vue énergétique, rassembler des centaines de milliers de tonnes de poussière et en extraire l'hélium-3, personne n'a réussi à démontrer que le coût en énergie de l'affaire, qu'on pourra récupérer avec l'énergie solaire, certes, mais enfin tout ça a un coût. Est-ce que tout ça a un bilan énergétique positif? C'est un peu comme les biocarburants, la réponse n'est pas évidente.
Dernière question, Yves Langevin. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'astronomes en France, et je dirais même dans le monde aujourd'hui, qui s'intéressent à la Lune? On a l'impression qu'ils se concentrent beaucoup plus sur les planètes du système solaire, sur les étoiles, les galaxies, les grandes questions. Mais des astronomes lunaires, on n'en trouve point.
Alors d'abord, le terme d'astronome, effectivement, n'est plus tout à fait adapté, puisque au stade où on en est, effectivement, l'astronomie de la Lune, c'est-à-dire finalement la regarder à la lunette et en faire la carte, est un objectif qui est un peu derrière nous. On en est plus à ce qu'on appelle la planétologie, c'est-à-dire l'étude de la Lune en tant que l'un des 15 objets de grande taille du système solaire, qui se trouve être autour d'une planète qui est la nôtre, et la comparer avec les autres satellites, y compris avec d'autres planètes. Il y a une planète dans le système solaire qui, au premier abord, ressemble beaucoup à la Lune, c'est Mercure, par exemple. Alors, quand on fouille un peu, elles sont très différentes, puisque Mercure est la plus dense de toutes les planètes, y compris la Terre, d'ailleurs, si on enlève l'augmentation liée à la taille de la Terre, qui condense un peu tout, alors que la Lune est pratiquement la moins dense de tous les objets rocheux. Donc il y a des différences, néanmoins la surface ressemble un peu. Alors, donc la planétologie de la Lune, c'est clairement quelque chose qui nous intéresse un peu moins que, par exemple, la planète Mars. Pourquoi ? Parce que la planète Mars a plus de phénomènes proches de ceux qu'on voit sur la Terre. Vous avez un peu d'atmosphère, vous avez un peu de climat, vous avez de la glace. Vous avez eu maintenant, grâce aux résultats de Mars Express et de l'expérience Omega, on a la conviction qu'il y a eu 500 millions d'années où il y a eu de l'eau liquide en surface. Donc, du point de vue de l'exobiologie, c'est une cible tout à fait privilégiée, ce que n'est pas la Lune. Donc, que la Lune ne soit pas prioritaire, c'est normal. Que, par contre, il y ait des choses intéressantes à faire sur la Lune, c'est vrai aussi. Et à nouveau, on retrouve ce problème, c'est que la Lune, on a été très loin, très vite, puisqu'au bout de 7 ans, pratiquement, 62-69, on a eu les échantillons. Donc, on se retrouve dans une situation où on a été très vite, d'après certains aspects, et aujourd'hui, quelque part, on bouche les trous. Bah, c'est un peu moins prioritaire de boucher les trous que d'aller plus loin dans des objets qui sont un peu plus prioritaires.
Merci Yves Langevin, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain épisode.